Je vais peut-être prendre l'occasion de votre intervention pour faire le lien avec la présentation suivante, qui est celle de Cécile Welker, qui va nous parler justement d'un autre type d'archive, qui est, oui, qui est celui de l'image de synthèse. Donc on est dans un autre domaine que celui de la littérature que vous évoquiez, mais qui pose aussi le problème de son archivage et de l'histoire que l'on peut en faire. Et qui va donc nous montrer un autre type de domaine patrimonial. Ça va, ça a tout.
Je vois rien.
C'est pas très bon
Ah, ça
signe.
y est, si
Voilà.
c'est bon. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je remercie tous les membres du réseau UDPN par l'intermédiaire notamment de Céline et Marie de m'accueillir aujourd'hui, puisque je ne fais pas partie du réseau à proprement parler, même si finalement il y a énormément de liens, donc je suis très heureuse d'être avec vous et de me donner l'opportunité de présenter mes recherches. Merci. D'une manière un peu différente, puisqu'il ne s'agit pas de présenter mes résultats, mais de valoriser une partie de ma thèse qui pourrait passer inaperçue ou rester invisible, qui est donc la mise en place du corpus et la numérisation du corpus que j'ai utilisé. De manière totalement empirique, en fait, je suis devenue, en quelque sorte, d'une manière très très modeste, vous allez le voir, je suis devenue archiviste et documentaliste en traitant numériquement les données que j'ai utilisées. Je m'intéresse, puisqu'il est important de se présenter pour nos questions donc, disciplinaires, je m'intéresse à l'archéologie des médias et à la génétique des œuvres plutôt art plastique. Mais ça rejoint la génétique des textes aussi par certains aspects. En fait, donc, je suis qualifiée en section 18 de la CNU, ce qui correspond à art et sciences des arts, où on fourre un petit peu toutes les pratiques artistiques. Et je travaille les œuvres, mais plus dans leur aspect esthétique. Historico-technico-esthétique. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien croiser. Ce qui fait que j'aime bien observer les œuvres qui vont se trouver plutôt à la marge ou en périphérie de certaines disciplines, ou en quelque sorte, de manière paradoxale, les œuvres qui vont résister, en fait, qui vont résister à rentrer dans le milieu de l'art contemporain et qui vont être peut-être plus proches de certaines industries culturelles, donc comme les films ou les jeux vidéo parfois. Donc, durant mon doctorat, vous le voyez ici, j'ai travaillé sur l'émergence des images de synthèse en France et plus particulièrement sur leur intégration dans la création audiovisuelle. Mais je me suis d'emblée confrontée à un problème de taille. Il n'existait aucun recensement des films de synthèse des premiers temps, bien que datant des années 80, ce qui est tout de même une histoire récente. Et pour cause, oui, les images de synthèse sont générées par ordinateur. De ce fait, elles sont nativement numériques, mais c'est un état temporaire, en fait, de leur genèse, puisque jusqu'au milieu des années 80, on pourrait même pousser encore un peu plus loin, on savait représenter par ordinateur, mais les machines, elles étaient incapables, elles n'étaient pas assez puissantes pour mémoriser ces images fixes ou animées. Parfois même, elle n'était pas assez puissante pour qu'on puisse regarder une image dans son entièreté en une seconde, je dirais. Donc, pour pouvoir observer et conserver ces images, il fallait les passer sur pellicule. On capturait l'image à l'écran à l'aide d'un appareil photo ou d'une caméra. Et je ne parle pas de l'amont, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait pas encore les écrans de visionnage. À tel point qu'il n'existe quasi plus de master des origines, ou très rarement. C'est-à-dire que les sociétés de post-production, comme les réalisateurs, en tout cas, ils n'ont pas gardé les bobines. Encore moins les lignes de code, finalement. On en parlait tout à l'heure. Quoique, il y a peut-être des pistes pour les lignes de code, puisqu'on va les retrouver dans les thèses et dans les travaux de doctorat. Bref, là, je vous ai mis un exemple d'un appareil assez utile à l'époque, même s'il était difficile à trouver, puisque ça coûtait très cher, d'un COM de Benson, qui permettait, là, pour le coup, de faire la capture des images. Tout ça pour vous dire que on est avant que les systèmes clés en main soient développés, c'est-à-dire avant que les logiciels clés en main soient développés, avant même que les machines graphiques soient mises. Enfin, on est au tout début du graphisme, quoi. Et donc, les artistes ou les personnes qui voulaient réaliser des images, en gros, devaient utiliser de gros calculateurs qui vont être disponibles plutôt dans les centres nationaux de calcul universitaire ou dans les grandes entreprises. Et donc, ici, ce n'est pas véritablement les locaux d'EDF, mais en tout cas, on sait qu'il a été utilisé et détourné par certains créateurs à l'époque. Voilà, donc ça c'est la première chose, la question du natif numérique. Et la deuxième chose, c'était les difficultés institutionnelles auxquelles je me suis confrontée. Puisque j'avais pas ces masters d'origine, il fallait que je m'oriente plutôt vers les lieux de diffusion, comme l'INA, qui a organisé pendant une vingtaine d'années le festival Imagina, qui était dédié aux images de synthèse qui se passaient à Monaco, à Monte-Carlo. Et puis l'INA a été très importante dans le développement de ces procédés aussi en France. Ça, c'est une autre histoire, plus économique. Et donc l'INATech va conserver tous les films qui ont été présentés dans ce festival-là. Mais malheureusement, ces films, ils sont encore en cours de traitement, donc ils ne sont pas encore accessibles. Il existe également de nombreux versements papier qui sont à l'INA, qui émanent des bureaux, mais qui ne sont pas triés, c'est-à-dire qu'on va retrouver à peu près les mêmes éléments dans plusieurs boîtes et qui ne vont pas être croisés avec les films, en fait. Donc, la logique aurait voulu que j'abandonne la piste des films, et alors que j'allais abandonner la piste des films, j'ai été engagée dans le programme de recherche NSAD Lab, c'est le programme de recherche de l'École des Arts Déco, qui est juste à côté, l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et donc, il y avait un programme de recherche qui développe un travail de mémoire justement autour des images de synthèse françaises, notamment parce que l'école a intégré très tôt les ordinateurs dans les enseignements. Donc au début des années 80, en 1982 plus exactement, ils ont eu un versement très important, un financement très important du ministère de la Culture qui leur a permis d'acquérir quelques machines pour faire travailler les étudiants. Et je m'éloigne de mon propos. Et tout ça pour vous dire qu'ils ont en leur possession de nombreux films d'étudiants réalisés par ordinateur. Et les premiers visionnages que j'ai pu faire de ces films conservés par l'École des Arts Déco, ces premiers visionnages, ils ont étayé un petit peu mon intuition, c'est-à-dire que ces films, ils nous apprennent beaucoup. Donc suivre la voie des films était vraiment très importante. Puisque, afin d'insister sur le caractère vraiment novateur des films de synthèse ou de l'utilisation de ces techniques nouvelles, dites nouvelles à l'époque, presque tous les films sont quasiment systématiquement présentés à l'aide de placards, vous en voyez un exemple ici, et de génériques très complets qui vont indiquer, en plus de l'équipe de production, les matériels utilisés pour calculer les images, donc les financements et les partenariats. Donc ce premier contact avec mon terrain, il m'a incité vraiment à mettre en place une pratique qu'on pourrait dire scientifique de la documentation numérique. Et dans une moindre mesure, ça peut un petit peu faire écho avec, ou illustrer, dans une moindre mesure, je le répète, le collectionnisme qui a été présenté par Joël Lemarec et François Mérès, puisqu'en fait, je répondais à un problème de place. J'ai numérisé énormément de documents, au final. Pour répondre d'abord à un problème de place, si j'ai intégré les arts déco, c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de toutes ces archives et qu'elles allaient partir à la poubelle, que le professeur responsable de ce programme de recherche depuis les années 80, qui s'appelle Pierre Hénon, était encore toujours en place. Il a pris sa retraite depuis 3 ans maintenant. Donc, il avait amassé des tonnes et des tonnes de cassettes, de VHS, etc., de documents dans les placards qu'il fallait vider parce que de nouveaux programmes de recherche allaient arriver. Il a même conservé ses mails depuis les années 70. Bref, il a tellement, tellement de documents intéressants et valorisables. Donc, il fallait déjà arriver à archiver tout ça, même si on était en lien avec la BNF et avec l'INATech. Mais encore une fois, l'INATech qui avait récupéré ces documents ne nous donnait pas accès non plus à la base et aux documents. Donc, en fait, Pierre, il ne voulait pas partir sans avoir accès à toutes ces images. Donc, on a fait d'abord ce travail-là pour un collectionneur. J'ai envie de dire particulier, c'était un peu sa requête. Et ensuite, ça a dérapé, parce que dès que les pionniers ont... Vous parliez de dérapage, dès que les pionniers ont su qu'on s'intéressait à cette histoire-là, ils m'ont contacté pour me donner des tonnes et des tonnes de choses. Donc j'ai des tonnes de cartons chez moi, même si je les orientais encore une fois à la BNF, mais parfois, il y avait des temporalités qui ne fonctionnaient pas. Par exemple, l'école Supinfocom de Valenciennes, qui est une école très réputée, qui a aussi ouvert ses portes au tout début des années 90, pour des problèmes de financement, devaient fermer leur bibliothèque. Donc ils avaient prévu de faire partir tous les ouvrages à la benne. C'était dans un laps de temps très court, d'un mois, donc pas le temps d'organiser véritablement quelque chose avec la BN. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Cécile, si tu veux louer un camion et venir récupérer des choses, ok, viens ». Certains étudiants m'ont accusé de dépouiller l'école parce qu'ils ne savaient peut-être pas les tenants et les aboutissants de la fermeture de la bibliothèque. Mais enfin bon, en l'occurrence, j'ai récupéré des tonnes de bouquins, etc., etc. C'était l'anecdote du dérapage. Tout ça pour vous dire que j'ai dû collecter, numériser, archiver, recenser pour ensuite analyser ces documents. Donc j'ai commencé à numériser, découper puis indexer des programmes entiers d'images de synthèse qui vont provenir de festivals, de best-of ou de bandes démo des sociétés, qui sont conservés, donc qui étaient conservés sur cassette humatique ou VHS pour la plupart, afin d'en extraire chaque échantillon les échantillons qui sont des courts-métrages, des effets spéciaux, donc des extraits d'effets spéciaux dans les longs-métrages, des publicités, des clips. Et donc ce rôle de documentaliste m'a donné une bonne place pour visionner un certain nombre de spécimens audiovisuels. Et cette indexation, elle m'a d'abord aidé à me familiariser avec des termes et des noms dont j'étais jusqu'alors peu familière, pour quadriller une communauté, définir mon bornage chronologique et délimiter mon champ d'action. On pourra y revenir lors de la question attendue de l'interdisciplinarité, mais j'en dis pas plus pour l'instant. J'ai eu peur que ce travail, bien entendu, soit redondant avec le travail fourni par l'INATEC. Je me suis dit, en gros, qu'il était absurde de fournir cette masse de travail en parallèle, finalement. Mais j'ai complété ces données avec des témoignages qui m'ont amené à découvrir d'autres films, ainsi que des documents textuels qui viennent accompagner les productions, comme vous le voyez ici, des storyboards, des making-of, des démos aussi, des articles de presse. Et puis, j'ai tiré parti de ce travail, c'est-à-dire que je l'ai valorisé en l'organisant pour servir mon travail d'analyse, mon travail de recherche doctorale, et j'ai produit une base de données adaptée à mes besoins. Donc, la base de données. J'ai d'abord essayé de dresser un état de l'art des normes d'indexation, en pensant à l'après-thèse et au devenir de cette base. Je dois vous avouer que j'ai très vite abandonné, vu l'ampleur de la tâche et du temps qui m'était imparti, et parce que je devais aussi avancer sur le travail de fond, en fait, donc de numérisation. Ce qui fait que j'ai construit cette base en fonction des recherches que j'avais à faire. Elle est très personnelle pour ça. L'année de réalisation, ou circa, le titre, la durée, les noms des réalisateurs et des collaborateurs, les sociétés de post-production, l'agence de publicité quand j'en avais connaissance qui a passé commande, le matériel utilisé, le pays de réalisation et enfin la provenance, c'est-à-dire pour conserver l'origine donc du document, l'origine du document numérisé, quoi. Et j'ai laissé surtout un champ commentaire qui me permet de donner tous les détails que j'avais à ma possession lorsque j'ai pu déployer un petit peu. Donc il s'agit d'une base de données classique, SQL, assez limitée. Assez limitée pourquoi ? On ne peut pas faire de recherche thématique. On ne peut pas coupler les données pour filtrer, par exemple. On n'a pas de choix ou de menu déroulant pour préciser vraiment la nature des documents. Je n'ai pas fait d'études sémantiques non plus sur les termes utilisés. Je ne suis pas documentaliste, mais à cette étape-ci, en fait, j'ai hiérarchisé mes données en fonction de mes usages, mais je n'avais pas encore exploité véritablement les données. Mais j'avais déjà des pistes, notamment cette question donc, de croiser matériel et esthétique et de vérifier les occurrences et les liens qui pouvaient être faits entre équipes, c'est-à-dire les noms qu'on va voir apparaître dans plusieurs projets pour savoir vraiment, pour arriver à définir la communauté et les acteurs de cette communauté. Je vous ai mis le lien parce que donc elle est en ligne. Vous pouvez y avoir accès, mais comme je vais vous l'expliquer, elle est faite moi pour ma pratique, donc elle ne pourra pas vous servir à grand-chose, d'autant qu'elle n'est pas reliée aux documents, donc on ne peut pas avoir accès aux films non plus en utilisant la base de données. Les films, je les ai par ailleurs dans un disque dur. Brancher l'ordinateur, il faut que je mette la charge. Est-ce qu'on a la charge ? Vous l'avez ? Ok, merci. Ensuite, il fallait que je croise les sources, puisque j'ai commencé là l'analyse de mes données et de ce film, croiser les sources avec notamment les archives nationales que j'ai ensuite intégrées à ma base de données, en fait. Donc l'enquête, elle a dû prendre la voie de l'analyse des discours de l'État quand ils existent, à travers des documents et littérature grise dépouillés aux archives nationales, dans les versements des ministères concernés par mon sujet, à savoir la communication, la culture, les PTT, recherche et technologie, mais aussi les structures qui leur étaient rattachées, le CNC, le CESTA et l'INA. Et donc aux archives de l'INATEC également. Sans oublier les revues de vulgarisation scientifique consacrées à l'informatique graphique, les revues spécialisées en images de synthèse, et puis les magazines plutôt liés au cinéma et à l'audiovisuel. Je vous remercie. Et donc, par habitude et facilité de recherche, j'ai entré tous ces documents dans un volet documents de la base de données, que vous voyez ici. Ce qui fait que, j'avais mis des exemples, mais on va peut-être passer, au lieu d'avoir un inventaire, raisonné Parce que j'ai mon inventaire papier quand même. Et au lieu d'avoir un inventaire raisonné qui va renvoyer vers des tonnes de dossiers, ben, chaque document va posséder un numéro. Il est plus facilement identifiable pour moi et ben, ça facilite mes recherches. Je passe là-dessus. Et ensuite, les entretiens. Il manquait une mémoire vive des pionniers. Et donc, j'ai complété ces données par la transcription des témoignages récoltés par le programme. Je vous mets ici le site du programme de recherche, puisqu'en fait, on a fait d'une pierre deux coups. Plutôt que j'interviewe ces chercheurs, ces pionniers-là, en fait, on a construit ça sur le modèle d'un séminaire. Pareil, qui n'est pas un séminaire raisonné, c'est-à-dire qu'en fait, la parole leur était donnée pendant une heure. On n'avait pas de questionnaire qui était formaté, construit. Donc, la parole était donnée et libre, mais on a capté ces séminaires. Donc, captation, ce qui m'a permis de faire une mise en ligne dans un premier temps, en espérant que ça pourrait intéresser d'autres chercheurs. Et ce qui a été plus facile pour moi ensuite pour faire la transcription de ces entretiens. On arrive à une quarantaine de personnes, quand même, partie prenante de cette histoire, et qui vont être classées selon trois catégories socio-professionnelles, les chercheurs, les réalisateurs et les acteurs politiques stratégiques. J'en suis pas là. En ce qui concerne les résultats, j'en suis arrivée à quasi, pour être précise, 1995 échantillons audiovisuels. Je n'ai pas fait ça toute seule, j'en ai peut-être fait la moitié. On avait un assistant technique aux Arts Déco qui m'a filé un grand, grand coup de main, mais qui du coup n'a pas fourni le même travail documentaire dans les fiches, qui n'a pas renseigné les fiches de la même manière. Donc il était plutôt là pour indexer, puis après il fallait quand même que j'aille remplir ces fiches-là une fois que j'avais analysé le document. 355 documents papier et 44 entretiens, donc comme je le disais, réalisés dans le cadre du programme. Donc autant de traces du contexte à la fois technique, politique et culturel de l'époque qui m'ont aidé à définir une histoire officielle des images de synthèse française, celle des recherches publiques, des réseaux institutionnalisés et des sociétés subventionnées par l'État. Et du coup, ce travail des archives, il m'a vraiment permis de replacer... aussi précisément que possible, je l'espère, les productions audiovisuelles dans leur environnement, c'est-à-dire depuis leur lieu de fabrication jusqu'à leur lieu de diffusion. Et il me semble que tout ce travail, à la fois de numérisation, d'indexation, il m'a aidé à appréhender cette histoire-là de manière plus intelligible, c'est-à-dire il a facilité ce travail et il m'a aidé à donner à entendre la voix des acteurs de cette histoire, tout en m'appuyant sur des documents écrits, qui étaient nombreux, mais mal recensés, mal référencés jusqu'à présent. Et ça m'a permis de revisiter les chronologies, en fait, et de saisir aussi des trajectoires, comme je le disais tout à l'heure, et donc de mettre en lumière des dispositifs qui ont favorisé cette émergence. Et pour conclure, je voulais ouvrir sur la valorisation de ce travail d'archives et l'avenir possible de ce fonds. En gros, comment est-ce que j'ai exploité ce patrimoine numérisé ? Ça vous fait peur, ça, mais... Alors, les plus. À partir de ce travail archivistique de recollection, donc, parce que pour moi, c'est une recollection d'un fonds documentaire conservé en partie à l'École des Arts Déco, croisé à l'analyse de littérature grise, mon travail doctoral, il a cherché donc à définir cette émergence des images de synthèse. J'ai essayé de circonscrire donc une fabrique, ce que j'ai appelé une fabrique, c'est-à-dire un réseau des outils qui tendent à rendre présent au lecteur une approche génétique des œuvres et des mondes qui les constituent, et qui dresse une étude rapprochée de la naissance d'un champ, vraiment, au sens fort du terme. Donc il s'agit de circonscrire une communauté qui a favorisé l'image de synthèse en France, les chercheurs, les ingénieurs, les réalisateurs, les politiques, les médiateurs. Donc ma thèse, c'est une façon de valoriser cette recollection, enfin cette collection qui avait au départ été faite, engagée par Pierre Hénon aux Arts Déco. Et cette circonscription, en fait, cette circonscription et cette circulation, elle a été facilitée par la numérisation. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais dès le départ la volonté de traduire des circulations, donc la circulation des hommes et des machines sur le territoire, par exemple de la recherche fondamentale à la recherche plus appliquée, ou de la recherche militaire à la recherche civile. Donc ça m'a permis de croiser des données qui sont peut-être pas si fréquemment croisées, en fait. Et du coup, les données récoltées, elles ont également permis la réalisation de graphiques que vous voyez ici, qui montrent cette circulation et la dissémination, en fait, sur le territoire des chercheurs, par exemple. Alors là, ce n'est pas directement sur le sujet de thèse, c'était sur un article, mais vous voyez où on va avoir les dates, les lieux, et donc les échanges entre ces dates et ces lieux, et avec les noms des équipes et les noms des interlocuteurs parfois. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite ? Oui. vont évidemment, de manière très pratique, la base de données, enfin les bases de données, elles ont facilité la recherche dans les documents dépouillés pour rédiger mes notes de bas de page, pour préparer des montages vidéo, les cours, les conférences, etc. Mais les notes de bas de page, ce n'est pas anecdotique pour les versements aux archives nationales, parce que du coup, j'avais qu'une recherche à faire à partir d'un mot-clé et j'avais tout mon versement, l'origine, même le dossier, puisque j'ai défini aussi à chaque fois quel dossier, la couleur et tout. Donc ça, ça a vraiment été très pratique. Et puis, ça m'a permis de mettre en ligne ce que j'ai appelé une thèse augmentée, en fait, qui accompagne l'écrit, en fait, qui a permis aux membres du jury de visionner les vidéos comme de mesurer les sources. Parce que comme ces vidéos, finalement, ne sont pas accessibles et que c'est un véritable travail d'archive, même s'il ne s'agit que de traces, puisque je vous disais qu'il ne s'agit pas des vidéos d'origine, ce qui a posé problème aussi, parce que finalement, j'ai retrouvé parfois des images vraiment issu du film d'origine, et on va voir qu'il y a de nettes différences dans les couleurs, par exemple, donc pour l'analyse esthétique, ça rentre en compte. Ou, par exemple, les artistes qui ont voulu jouer l'interlignage. Des écrans cathodiques, etc., et qui ont voulu jouer vraiment comme ça sur les lignes, ce qu'on va perdre lors de la numérisation, par exemple. Donc voilà, j'ai proposé cette thèse augmentée qui pour l'instant était juste à destination des membres du jury, donc à usage fermé avec un code simplement pour les questions de droit, puisque j'ai aucun droit sur tous ces documents. Voilà, les vidéos et puis aussi toutes les sources, page par page, en conservant l'ossature de la thèse, chapitre par chapitre. Et les côtés négatifs, eh ben, c'est la question des positif et négatif, la question des compétences. À la fois, j'ai dû déployer des compétences techniques que je n'avais pas, donc me renseigner sur les façons de documenter, etc., ça a été très important. Me documenter aussi, ou aller mettre les nez, le pied, suivre des chercheurs dans une discipline autre que la mienne, c'est-à-dire de l'informatique graphique, lire des textes, aller au congrès de l'informatique graphique, apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, donc m'engager parfois dans des associations pour comprendre justement ces mots, comme on disait tout à l'heure, modélisation, moteur de rendu, GPU, etc. Bref, me former à une autre discipline, essayer de me faire comprendre pour que je comprenne aussi les textes historiques qui m'ont aidé à dresser cette histoire technique. Mais le point négatif, c'est que ce travail de documentation, il aurait pu être pensé, réfléchi dès le départ et construit comme un véritable outil ouvert aux chercheurs et aux praticiens, c'est-à-dire pas seulement à ma pratique et à mon usage. Si le groupe de recherche de l'ENSAD, il avait pris en compte cette dimension-là, en fait. Donc, on aurait pu, par exemple, avoir un outil, ça c'était un exemple de site, mais bref, un outil tel que Presse en stock qui est utilisé pour les usages... par exemple, les usages des mondes d'Hergé, donc qui a vraiment été très réfléchi dans la sémantique, dans la façon de fournir des documents, etc. Et on aurait pu, du coup, faire dialoguer cette base avec d'autres bases de données, telles que l'INATEC, de sorte à ce que les documents ils soient réellement archivés, parce qu'on a fait tout ce travail-là, mais c'est un travail qui n'est pas du tout pérenne. Je vois que vous avez un projet en ligne de corpus, ça peut aussi répondre à ces questions-là, mais ça, c'est un travail qu'on n'a pas mis en place. Voilà, je vous remercie. Thank you.